qui a déjà un fan club, c'est pour ça qu'il va nous parler du fandom tout à l'heure. L'auteur des futurs mystères de Paris et dont le dernier livre, La balle du néant, vient d'être réédité. Et qui est surtout, pour aujourd'hui en tout cas, l'auteur de HPL, une sorte de biographie uchronique, comment l'appeler de...
Uchronique, c'est la seule véritable biographie.
C'est la seule véritable biographie, bien sûr. Tiens, prends le micro quand tu parles.
Ouais. Oui, je disais, c'est la seule véritable biographie de Lovecraft, parce que toutes les biographies de Lovecraft que vous trouverez dans le commerce disent qu'il est mort en 37. C'est pas vrai, il est mort en 1991, la preuve est là.
Bien. Bien. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, ce livre est en vente. Celui-ci, avec une nouvelle maquette.
Là, il vous montre une édition, un super petit tirage et tout, dont la valeur, la valeur est d'environ 250 euros donc, et qui est à la vente nulle part, donc c'est pas la peine. L'autre, par contre, il est au stand ActuSA, vous pouvez y aller, bon. Et c'est 5 euros.
Bon, en tout cas, ne me le volez pas. Patrick Gigère est le conservateur de la maison d'ailleurs à Yverdon, en Suisse, et donc c'est lui le maître d'œuvre de l'exposition que vous avez eu la chance donc de visiter en rentrant ici. Mon collègue et ami Gilles Ménégaldo, professeur des universités, professeur de littérature et de civilisation américaine à l'université de Poitiers, qui est sans doute l'universitaire qui a pondu le plus sur Lovecraft et qui évidemment parlera en tant que spécialiste. On va commencer, je vais donner brièvement la parole à chacun des intervenants pour nous dire un petit peu sa vision de Lovecraft par rapport au sujet, et notamment au réseau. Roland, qu'est-ce qui t'a intéressé chez Lovecraft par rapport, disons, à cette biographie, bien sûr, qui n'a rien d'imaginaire, comme nous le savons?
Bon, pour rester dans notre réalité où Lovecraft est mort en 37. Moi, il y a une chose qui m'a frappé. J'avais lu Lovecraft dans les années 70, quand j'étais adolescent, et quand j'ai commencé à découvrir l'exégèse lovecraftienne, c'est-à-dire tous les textes qui ont été écrits sur Lovecraft, qu'il a commencé à me fasciner. Et ce qui m'a fasciné, c'était que la légende de Lovecraft, une espèce d'initié barjot vivant reclus, était totalement fausse, qu'en fait, ce type, il avait plein de potes, il était super rigolo, tous les gens qui l'ont rencontré le disent. C'est vrai qu'il ne quittait pas beaucoup Providence, mais il a quand même un peu voyagé. Et puis c'est un type, il s'est quand même marié, tout ça, contrairement à la légende et tout. Et là, et surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ce type qui est considéré chez nous comme une espèce d'ovni, d'écrivain unique, sorti de nulle part, en fait, c'était un pilier du fandom, du domaine des fanatiques de la science-fiction qui se constitue à partir de 1929 aux États-Unis. Il a écrit 100 000 lettres, mais il fallait bien qu'il les écrive à quelqu'un, ces lettres. Il y a des gens qui lui répondaient. Et les gens qui lui répondaient, c'était d'autres fans de SF, voire d'autres auteurs. Et ça m'a vraiment fasciné. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à partir et à revoir totalement ma vision de Lovecraft, qui n'avait strictement rien à voir avec celle qui avait été propagée par Bergier à partir des années 60, par la revue Planète, voire plus récemment par Houellebecq. La réalité, c'est que Lovecraft, il était comme plein de gens que nous, dans le milieu de la science-fiction, on connaît. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont super contents de parler de leur passion avec d'autres gens, qui sont super contents d'échanger et tout ça. C'était un fan. Avant d'être un auteur, je pense que c'était un fan.
Voilà, en tout cas, je trouve une approche très intéressante et qui remet un petit peu en cause tous les poncifs que l'on sort à propos de Lovecraft. J'ai l'impression qu'on va tordre le cou à pas mal d'idées sur Lovecraft aujourd'hui. En passant, Patrick, pourquoi avoir intitulé cette exposition l'exposition qui rend fou? Rend fou les participants, les visiteurs?
Elle rend fou les organisateurs, malheureusement. Puisqu'il y avait l'idée, en fait, c'était de célébrer les 70 ans de la mort de Lovecraft, puisqu'il ne fallait pas célébrer sa naissance, évidemment, ça aurait été bizarre, puisque toute la thématique tourne autour de... c'est quand même relativement macabre, hein, en tout cas, c'est relativement sombre. Et on sait, comme disait Roland, Lovecraft, il est au centre véritablement d'un réseau de fans, d'écrivains, d'artistes qui se réapproprient son œuvre constamment à partir des années 30, ça part, de nouveau dans les années 50, dans les années 70, avec les, des revues comme Marvel et autres qui récupèrent son travail pour faire de l'illustration et de la bande dessinée. Et on avait envie de relancer ça, cet intérêt pour Lovecraft, qui n'est pas vraiment mort, mais à travers des nouveaux réseaux, justement. Et on avait envie de célébrer Lovecraft à travers son propre travail, sans faire une exposition sur lui, mais l'exposition lovecraftienne. Et là, l'idée, je pense, qui nous a vraiment aidé, c'était de prendre un de ses textes qui s'appelle Le Livre de Raison, qui est un peu comme un livre de notes, en fait, c'est un recueil de notes, un livre de cuisine, si on veut, dans lequel, entre les années 1919 et 1934, il écrit 222 petites notes, des notules qui font une ligne, cinq lignes, dix lignes, ou des petites citations où il dit voilà, un chien vampirique. Ou alors une maison avec un étrange encorbellement et une lumière apparaît toutes les nuits à telle heure. Et ce sont juste des invocations très graphiques, justement, qui permettent de donner une espèce de poésie lovecraftienne à des illustrations. Donc on a donné ces textes à des artistes qui n'étaient pas du milieu de la science-fiction, beaucoup d'entre eux étaient des artistes, illustrateurs pour enfants, des dessinateurs de BD et autres, en disant voilà, inspirez-vous de la sonorité, la tonalité qui apparaît de ce texte-là pour créer cette expo qui rend fou. Et le résultat, en tout cas en partie, il est ici aux Utopiales. C'est, et là, les réseaux, c'est vrai, d'artistes ont aussi joué, puisque au bout d'un moment, on a commencé non seulement à avoir des demandes de la part de gens qui sont non spécialisés de Lovecraft, mais dès que les gens ont su qu'il y avait cette exposition, beaucoup de Lovecraftiens devant l'éternel nous ont contactés pour pouvoir participer là-dedans. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec plus d'une centaine d'artistes, en fait, pour cette exposition, dont le but est de montrer, en fait, que l'univers de Lovecraft, il est... Là où il est le plus réussi au niveau de l'illustration, c'est l'évocation, en fait, qui est présente seulement. C'est pas l'horreur patente, c'est l'horreur cachée, c'est l'horreur qui est à la limite de la perception. Et lorsqu'on met une phrase, par exemple, il y en a une que j'aime bien, qui dit « Les démons, lorsqu'ils veulent prendre forme humaine, prennent possession de corps de pendu », je pense que ceux qui ont le mieux réussi à rendre cette phrase, ce sont ceux qui ont montré des personnages tout à fait normaux, par exemple en tenue de jeune marié. Et là, cette discrépance entre la phrase atroce et une image tout à fait gentillette crée justement cette espèce de limite lovecraftienne qui, moi, me semble intéressante à explorer.
C'est d'autant plus étonnant que, enfin, pour ceux de ma génération, la difficulté principale, c'était de représenter l'univers lovecraftien. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'on a réussi graphiquement, et puis ensuite presque cinématographiquement, mais il faudra du temps. Et je pense qu'on n'a pas encore fait un grand film lovecraftien, hein, Gilles, tu seras d'accord. Mais ça, c'est assez étonnant de voir d'un seul coup cette prolifération, peut-être justement à travers un réseau artistique, hein, qui, d'une certaine façon, s'empare de l'œuvre lovecraftienne avec des résonances infinies.
Alors, juste, ouais, je vais laisser peut-être.
Juste une remarque très très brève, c'est qu'on dit Lovecraft et les réseaux, et je pense que le terme les réseaux est vraiment juste, parce qu'il y a eu tout un tas de réseaux lovecraftiens, et chaque réseau lovecraftien a sa propre vérité sur Lovecraft. Bon, là, ce que j'ai essayé de résumer sur lui, c'est en gros le stade auquel on en est, à partir des recherches qui ont été faites aujourd'hui sur Lovecraft, sur ce qu'on sait sur lui et tout ça. Mais ce qui est très clair, c'est que par exemple, Derleth a donné une vision de Lovecraft et a développé un réseau autour de Lovecraft qui est spécifique. Ce qui s'est passé en France avec les publications chez De Noël, chez Opta et les trucs. On peut me baisser un peu les ce qu'on en disait dans Planète et dans Le Matin des Magiciens et tout ça, a créé un autre réseau. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, dans les années 60, le réseau pro-Lovecraft était assez proche des milieux de l'occultisme et des soucoupistes et de tout ce genre de choses. Donc en fait, il y a une pluralité des réseaux lovecraftiens, mais que ces réseaux se développent après sa mort et que le réseau principal... c'est quand même marrant, quoi. Que autour de ce type, il y a tout le temps des groupes de gens qui essaient de le reprendre à leur compte et puis qui essaient de l'attirer vers eux. Il a quelque chose de fascinant et je ne sais pas ce que c'est.
Merci. Ce que je vous propose, c'est que là, on parle déjà des réseaux qui se sont formés pendant la vie de Lovecraft et après Lovecraft. Je propose que Gilles nous parle un petit peu d'une sorte de sympathie naturelle, comment dire, de tendance naturelle chez Lovecraft à s'associer en réseau et avoir conçu une œuvre en réseau. Ça, c'est tout de même quelque chose d'assez unique pour l'époque, non ?
Oui, tout à fait. Oui, je voulais juste dire d'abord, je remercie beaucoup Patrick Guiguerre d'avoir amené cette exposition à Nantes, parce qu'au départ, elle était effectivement à la Maison de l'Ailleurs en Suisse. Et je pense que c'était une excellente idée de partir de The Commonplace Book, donc ce livre de raison. Et on s'aperçoit, on peut faire une sorte d'itinéraire de cette exposition en se disant, là, Lovecraft a utilisé telle ou telle phrase. Par exemple, le monstre la main griffue qui frappe à la porte. Ça, c'est le monstre sur le seuil, par exemple. Donc, il y a plein de traces comme ça, mais on peut dire aussi à l'inverse qu'il y a plein de sur ces 200 propositions, disons qu'il y en a beaucoup qui sont restées inabouties. Et donc peut-être que c'est à relier aussi avec l'idée que Lovecraft a passé la moitié de sa vie à soit réécrire les textes des autres, donc il est une grande générosité, soit à écrire des lettres, là encore pour donner des conseils littéraires à un certain nombre d'écrivains en herbe, parfois d'ailleurs des écrivains qui n'en étaient pas au départ, comme Harry Houdini le magicien, pour lequel il a réécrit Le prisonnier des pharaons, donc une histoire effectivement qui se passe dans l'ancienne Égypte. Il y a tout un thème égyptien chez Lovecraft qui serait intéressant de développer. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que cette exposition montre à la fois disons l'inspiration de Lovecraft et sa grande liberté effectivement dans l'imaginaire, donc il avait des réserves d'histoire qu'il n'a jamais pu véritablement faire aboutir. Alors pour revenir sur les réseaux lovecraftiens, je pense qu'il faut quand même dire qu'il est vrai dans une certaine mesure, et d'où est né ce mythe qu'a repris effectivement en partie Welbeck, que Lovecraft était solitaire, le reclus de Providence, etc., c'est parce qu'il a été malade pendant une partie de son adolescence, et donc il est resté relativement cloîtré. Mais très tôt, disons qu'à partir de 21-22 ans, d'ailleurs je crois que c'est Roland qui en parle dans sa biographie, il me semble, c'est quelqu'un qui commence à participer à ce qu'on appelle la presse amateur, et qui va publier un certain nombre d'articles dans cette presse amateur, des articles qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement liés à la fiction, mais au contraire, plutôt des articles qui concernent les sciences, donc d'où le côté, la dimension très scientifique de certains textes lovecraftiens. Il est passionné par la physique, en particulier par les découvertes d'Einstein, par exemple la théorie de la relativité, qu'il évoque à très nombreuses reprises dans sa correspondance. Il est passionné par les mathématiques, et là encore on va retrouver ça dans ses textes. Et il écrit des textes en fait aussi sur l'astronomie, hein, dans une petite revue amateur d'astronomie. Mais déjà dans ces textes-là, il s'intéresse aussi à la philosophie. Il écrit par exemple un article qui s'appelle « Nietzsche et le réalisme », où il se pose la question il est très nietzschéen, entre guillemets, dans son refus, dans son rejet de tout ce qui est des valeurs judéo-chrétiennes, on va dire, pour aller vite. Donc ça, c'est un premier ensemble de contacts qu'il a. Ensuite, il va développer, effectivement, et ça on en trouve un écho dans sa correspondance qui est immense. En gros, il y a 5 volumes de lettres publiés, malheureusement un seul en France. Ça représente des milliers de lettres.
Il écrit, sans doute entre 80 et 100 000 lettres. Mais 100 000 c'est difficile, ouais. On ne saura jamais exactement.
En tout cas, donc, il se crée un deuxième réseau qui lui-même se démultiplie en réseaux secondaires, par exemple des réseaux amicaux, donc qui sont baptisés parfois du nom de leurs auteurs, enfin des écrivains en question. Le Clay Comolo, par exemple, donc on peut retrouver ses initiales de chacun des correspondants de Lovecraft, ou le Kalem Club. Donc on voit bien qu'il est associé à des tas de personnalités. C'est d'ailleurs grâce au Kalem Club qu'il va rencontrer sa femme Sonia Green, d'origine juive, avec qui il va vivre plusieurs années à New York, avant de constater qu'il n'est pas fait pour la grande ville, pour la grande métropole. Ça va donner lieu aussi à des diatribes, on va dire, contre la grande ville, la grande métropole, et évidemment certains débordements, on va dire, racistes ou xénophobes en tout cas. Voilà, donc ça c'est un deuxième réseau. Et alors l'autre réseau peut-être qu'on peut évoquer, parce que là il comporte des gens beaucoup plus connus, c'est bien sûr toutes les amitiés épistolaires, parce que c'est la plupart du temps des gens qu'il n'a pas rencontrés en réalité, dans la dans la vraie vie, notamment des grands écrivains comme Robert Howard, donc on pourra en reparler tout à l'heure, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, bien connu bien sûr, et des tas d'autres. Donc ça, c'est encore un autre réseau, donc ils échangent des conseils épistolaires, ils se font lire leurs textes, et Lovecraft est très sensible à ce que pensent les autres de ses propres écrits, et il commente également les écrits. Voilà, donc je peux continuer, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de réseaux dont on a une idée dans la correspondance, qui d'ailleurs projette un éclairage assez différent sur son œuvre. C'est-à-dire que quand on lit les textes sans avoir lu la correspondance, on a une certaine image de Lovecraft. Si on lit la correspondance, on a une autre image. Voilà. Donc,
c'est sûr qu'en lisant les textes de Lovecraft, on n'a pas l'impression qu'il a de l'humour, et que quand on lit sa correspondance...
Voilà, j'allais le dire, mais je te laisse le dire.
Il existe une photographie de Lovecraft en train de rire, une seule, mais... On voit que ce type était un joyeux luron, il n'y a pas de problème. Il a rien à voir avec l'image sinistre qu'on a bien voulu en donner. Et quand tu parlais des différents réseaux, moi je pense que le réseau justement des écrivains ou aspirants écrivains avec qui il communiquait n'est pas distinct du réseau fanique, du fandom qui est alors naissant aux États-Unis à ce moment-là. Et comme je disais, Lovecraft a été un pilier du fandom. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est très spécifique, qui s'est vraiment développé à partir des revues de Gernsback à partir de 1929 et du courrier des lecteurs. Ce que faisait Gernsback, c'est qu'il publiait l'adresse des lecteurs. Donc au lieu de répondre dans le courrier, on pouvait écrire directement aux gens. Et c'est comme ça que Lovecraft, qui notamment avait publié des lettres, recevait des lettres directement et qui s'est retrouvé à écrire à des gens. Et que tout ce réseau qui finalement a donné, après 80 ans d'évolution, ce qu'est actuellement le fandom américain, enfin anglo-saxon, est parti... à ce moment-là, et que Lovecraft il s'est retrouvé pilier de ça, ou au plein milieu, parce qu'il était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne attitude.
Oui. Et c'était Lovecraft, parce qu'il avait tout de même une personnalité assez spéciale, et je me demande si c'est pas ces contradictions même qui l'amènent justement, lui qui, d'une certaine façon, se sent isolé, est-ce qu'il s'ouvre... Gilles appelle ça la vraie vie, c'est assez intéressant d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la vraie vie, mais il s'ouvre à la vraie vie d'une certaine façon à travers les réseaux, à travers la correspondance, et visiblement, c'est assez étrange, il a correspondu pendant des années, je pense à quelqu'un avec qui il a correspondu pendant 12 ans, sans jamais vouloir rencontrer la personne. Il y a donc quelque chose chez lui d'assez particulier qui tient bien à sa personnalité d'une certaine façon.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que même sa création littéraire, en fait, elle se fait par réseau. Non seulement donc il recorrige et retravaille les textes des autres, il donne des conseils, etc. On le sait avec Robert Howard, entre autres. Mais aussi sa propre création littéraire. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'il écrit, par exemple, le livre de raison, il le met à disposition des gens en disant « Vous pouvez piocher dans ces idées, comme nous on l'a fait par rapport à l'art, dans l'exposition, mais vous pouvez piocher là-dedans pour développer vos propres histoires. » Et on se dit, en fait, c'est bizarre, ça viendrait peut-être affaiblir son œuvre, au contraire. Et là, en fait, il fait une œuvre de pionnier que maintenant les gens qui travaillent sous le label Creative Commons peut-être utilisent aussi. À savoir, plus on met son univers à disposition des gens, plus on les approprie, plus sa propre mythologie, en fait, elle est développée. Donc le fait que lui-même pousse les gens à utiliser son univers, leur donne des idées, leur donne des créatures, etc., ça vient non pas affaiblir son travail, au contraire, ça vient complètement en créer une base en fait extrêmement solide. Et en fait, si maintenant Lovecraft est aussi important qu'on le connaît, qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réappropriés volontairement en fait, du plein gré de Lovecraft lui-même.
Presque le trahir. Parce que Derleth, faudra bien en parler à un moment.
Ça c'est après sa mort.
Oui, justement, ça fait partie des réseaux post-Lovecraftiens. Non, ce qui prouve bien que les réseaux aussi peuvent finir par, en développant à outrance les idées d'un écrivain, peuvent finir par les trahir complètement, quitte à créer quelque chose de totalement différent.
Il suffit de voir les textes holmésiens, par exemple. C'est clair que dans les aventures de Sherlock Holmes qui ont été écrites depuis, il y en a certaines qui rentrent dans le canon et d'autres qui ne rentrent pas. Ouais. Et je pense que pour Lovecraft, c'est un peu la même chose. Mais je crois que Derleth a fait beaucoup de mal, non à la réputation de Lovecraft et du mythe de Cthulhu, mais en l'orientant beaucoup plus vers le fantastique. Tout à l'heure, tu disais que Lovecraft s'intéressait beaucoup à la science. Ouais. Mais dans les traductions de Lovecraft qu'on a eues dans les années 50 en France, eh ben, les traductions étaient légèrement coupées. Et oh surprise, eh ben, ce sont justement les justifications scientifiques et science fictive qui avaient disparu des textes. Donc ça accentue la réception de Lovecraft comme un auteur d'horreur fantastique et non comme un auteur de science-fiction horrifique. Parce qu'à partir du moment où on supprime le peu de choses qui permet justement, entre guillemets, de rationaliser l'intrigue, on se retrouve face à un texte fantastique, c'est évident. La Maison de la Sorcière est clairement un texte fantastique, mais il date des années 20. Dès qu'on aborde les années 30, on se retrouve avec des textes qui sont indubitablement de la science-fiction, à condition de les lire en version intégrale.
C'est vrai que nous, on a eu cette question à la Maison d'ailleurs, puisque la Maison d'ailleurs, c'est le musée de la science-fiction en Suisse, et on nous demande pourquoi vous faites quelque chose sur le fantastique et l'horreur. Et c'est vrai qu'on a tenté d'expliquer que la force de Lovecraft, c'est justement ça, c'est de dire, non pas votre système de référence, il est perturbé par un élément extérieur comme un fantôme ou des monstres d'un autre âge, etc. C'est le système lui-même qui est en fait effrayant. Et si vous êtes assez intelligent ou vous avez assez de connaissances pour le comprendre, comme au début de l'appel de Cthulhu, on voit, il explique, un jour viendra où l'humanité aura les connaissances suffisantes pour voir qu'elle n'est rien, en fait, et c'est l'horreur passe par la connaissance et pas par l'ignorance, justement.
Oui, je voulais rebondir par rapport à, on parlait tout à l'heure de la vie réelle, etc. Il y a un autre aspect pour lequel Lovecraft aussi a été très généreux, disons, c'est qu'il avait une autre vie, on va dire, c'est sa vie onirique. Et quand même, beaucoup de ses textes sont fondés sur ses rêves. Et ses rêves, il les prêtait aussi à d'autres écrivains pour écrire des textes. Frank Belknap Long, par exemple, a écrit une nouvelle à partir d'un immense rêve romain, sur la Rome antique, que Lovecraft lui-même n'a pas utilisé, donc bon, c'est un aspect. Je voulais revenir quand même pour alors le grand débat, enfin, qui date depuis des décennies sur Lovecraft est-il un écrivain de science-fiction, de fantastique. Je crois qu'il faut aussi revenir à un autre réseau, je dirais, qui est presque antérieur, qui est les lectures de Lovecraft. C'est-à-dire que Lovecraft a commencé par lire énormément, justement profitant de cette adolescence un peu maladive, etc.
Il a même fait un guide de lecture.
Et il a fait un guide de lecture. Il a fait aussi un essai bien connu qui s'appelle Supernatural Horror Literature, donc, où il fait une sorte d'histoire littéraire du fantastique, du gothique et du fantastique, on va dire. Donc il connaît très très bien, il connaît très bien la littérature anglaise. Et il faut, toute la première partie, donc pour ça, c'est intéressant quand même de voir chronologiquement l'évolution de l'œuvre, parce que dans les années 20, les tout premiers textes de Lovecraft, déjà ses premiers textes en tant qu'adolescent, parce qu'il écrit des textes très jeunes, sont des textes inspirés de Poe, des textes purement macabres, on va dire. Ensuite, il découvre Lord Dunsany, qui est un écrivain irlandais, qu'il admire énormément et qui lui commence, qui décrit justement des villes imaginaires, qui décrit des mythologies imaginaires, etc. Et il a toute une période où il est influencé par Dunsany. Ensuite vient la période poesque, enfin, et cette période poesque dure, on va dire, enfin, petit à petit se débarrasse de l'influence de Poe, mais l'influence de Poe reste marquée dans une nouvelle très tardive, comme Les Montagnes Hallucinées, par exemple, cette longue novelle-là, où il fait des références extrêmement précises à Arthur Gordon Pym. Donc il y a aussi cet aspect-là qui explique aussi son évolution stylistique, en quelque sorte, et thématique. Mais je pense que la force de Lovecraft, comme disait Patrick à l'instant, c'est effectivement d'avoir fait une sorte de symbiose de ces différentes influences et de créer un univers qui est bien à lui et qui est marqué à la fois par un travail extrêmement complexe sur l'écriture et en même temps effectivement des thèmes spéculatifs qui évoquent la science-fiction. Donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas dire qu'il est ni d'un côté ni de l'autre. Il y a une évolution qui suit aussi l'évolution un petit peu de l'histoire littéraire de son temps. Voilà.
Juste deux remarques. La première, c'est que le fantastique de Lovecraft a toujours été athée, vu que c'était un matérialiste convaincu.
Absolument, oui, oui, tout à fait.
Et la deuxième chose, c'est que Lovecraft, dans son évolution, il a peut-être touché à plusieurs genres, à une époque où les genres n'étaient pas forcément très définis. Ouais. Mais moi, une chose sur laquelle je me suis rendu compte qu'on pouvait toujours s'entendre, c'est de dire que Lovecraft était fondamentalement un écrivain d'horreur, étant entendu que l'horreur n'est pas un genre, mais une couleur donnée au récit. Et qu'on peut écrire des textes de science-fiction ou de fantastique, ou même des textes réalistes d'horreur. Et je crois que la force de Lovecraft, c'est d'arriver à faire passer ce sentiment de vertige métaphysique terrifiant, disons, quel que soit le médium qu'il emploie. Et comme tu le dis, effectivement, il y a une évolution du fantastique vers la science-fiction. Et moi, c'est en fait, si j'ai écrit ma bio de Lovecraft, c'est parce que me suis mis à rêver dans Lovecraft qui serait pas mort en 37 et qui aurait continué son évolution vers la science-fiction et qui serait devenu l'une des plus grosses pointures de la science-fiction. Parce que, je veux dire, vu le talent de ce mec et sa manière aussi étrange d'aborder aussi bien la vie que la littérature, il aurait certainement donné de très très grandesques. Ouais. Et pour moi, Lovecraft est un auteur qui ne cesse de s'améliorer au fil de sa carrière. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des textes des années 20 qui sont vraiment sympas, mais ce que je veux dire, c'est que les 3 ou 4 plus grands textes ont été publiés dans les années 30 et notamment ouais. dans Astounding. Ouais. C'est pas les textes de Weird Tales de Lovecraft finalement qui sont les plus marquants, c'est ceux ouais. qui sont parus dans des revues dédiées à la science-fiction.
Ouais. Le débat est... Je trouve est passionnant, mais peut-être on s'écarte un peu du réseau. Mais par contre, on pourrait peut-être s'interroger sur le réseau à l'intérieur même de la fiction de Lovecraft, parce qu'on s'aperçoit aussi que son imaginaire fonctionne par réseau. Est-ce que Gilles, tu veux développer ce point ?
Oui, je peux essayer. Je voulais simplement dire un mot pour rebondir sur l'histoire de la trahison. Je crois qu'on y reviendra peut-être après, mais c'est quand même important cette histoire. C'est vrai que l'œuvre de Lovecraft a été gauchie par un certain nombre de ses suiveurs ou épigones. Hein, bon. Mais pour revenir à l'imaginaire à l'intérieur de l'œuvre, effectivement, je crois que l'une des forces de Lovecraft, c'est quelqu'un, un critique américain, il me semble, enfin ça a été repris, je crois que c'est Michel Murger aussi a repris cette idée, de parler de régionalisme cosmique. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'ancré localement, mais c'est aussi quelque chose qui concerne l'univers. Donc la menace, c'est une menace universelle. Donc il y a bien l'idée d'une sorte de réseau, c'est-à-dire par exemple dans l'appel du Cthulhu, qui est un des textes les plus célèbres, un texte de 1926, et qui est présenté sous la forme d'un ensemble de documents. Il y a déjà l'idée du réseau à travers l'idée d'une circulation de l'information, une tentative de retrouver toutes les informations liées à un cas ou plusieurs cas qui sont produits dans plusieurs endroits du globe. Donc le réseau fonctionne à deux niveaux. Le fait de retrouver la trace de ces différents cultes qui concernent tous des croyances ancestrales à l'idée que les entités préhumaines vont faire retour sur la Terre et vont s'emparer de la Terre littéralement après avoir été bannies. Pour d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, ça, c'est donc à l'idée d'un réseau de culte. Donc, c'est ce qui est peut-être aussi a donné lieu à des interprétations ésotéristes ou occultistes de l'œuvre de Lovecraft qui ne correspondent pas effectivement à son matérialisme athée à lui. Donc il est très fort, disons, pour faire croire aux gens que son univers, entre guillemets, est un univers authentique, hein, que la menace est bien là, en quelque sorte. Donc, il y a un côté paranoïaque, on peut dire. Le réseau s'exprime aussi à travers des livres qui sont des livres maudits, donc qui constituent aussi un réseau de textes, un petit peu comme une sorte de grande bibliothèque.
Ah oui, les bibliothèques maudites.
Bibliothèques maudites, un peu à la Borges, c'est pas la bibliothèque de Borges, mais enfin c'est quand même cette idée. Alors, et ces textes, l'astuce de Lovecraft qu'il emprunte en partie à Poe, c'est de mélanger des textes réels et des textes imaginaires. Donc des textes d'alchimistes célèbres ou d'occultistes célèbres avec des textes évidemment qui sont exemple complètement inventés, comme le fameux Necronomicon, dont d'ailleurs on a eu une version sous forme de canular paru dans les années 70, je crois.
Rapidement une remarque. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, quasiment chaque auteur important, que ce soit Robert Howard, Clark Ashton Smith ou Lovecraft ou d'autres, avait leur livre maudit inventé, absolument, personnel, et qu'en plus il se les refilait.
Voilà,
c'est-à-dire, je me rappelle plus des titres des faux bouquins.
Il y a le culte des ghouls, conte d'Erlet. Alors le conte d'Erlet, c'est Auguste d'Erlet, donc celui qui a publié le texte de Lovecraft après sa mort, donc il devient un personnage de fiction dans l'œuvre de Lovecraft. De la même manière que Robert Bloch a fait de Lovecraft un personnage de fiction dans des textes ultérieurs, dans des réécritures lovecraftiennes, donc il y a un côté extrêmement ludique, hein, que tu disais tout à l'heure.
Je me rappelle plus du détail, mais il n'y a pas un texte de Bloch qui met en scène Lovecraft ou le contraire ?
C'est un texte de Lovecraft qui met
en scène
Bloch. Ah non,
pire que ça, c'est Bloch qui raconte la mort de Lovecraft.
Oui, mais il y a aussi un texte de Lovecraft où Robert Blake est en fait une sorte de pseudo de Robert Bloch. Hein, et donc il s'amuse à faire de Robert Bloch, la victime d'une entité qui s'est réfugiée dans une église, en fait.
C'est clairement la preuve de l'existence d'un réseau. Parce que quand il y a réseau, il y a private jokes.
Ouais.
Donc humour entre soi, sous-entendu, plaisanterie. Et pardon. C'est évident que dans l'ensemble de ces textes qui sont liés à la fiction lovecraftienne, à ce genre d'auteur et au livre maudit, on retrouve tout un tas de clins d'œil, de jeux de mots, de plaisanteries entre les uns et les autres, qui montrent. Enfin, veut dire que c'est une nouvelle preuve du fait que Lovecraft, il n'était pas tout seul dans son coin à faire son machin, et qu'au contraire, il y a aussi une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on commence à écrire. Moi j'ai connu ça, hein, je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, il y a eu un moment où je n'avais pas publié de livre. Bah, à ce moment-là, il y avait un mec qui s'appelait Michel Jury, qui était super sympa et qui répondait à toutes les lettres, même des petits cons qui l'emmerdaient. Et je pense que Lovecraft, c'était un peu un mec comme ça, quelque part. Au niveau de la personnalité, j'en sais rien, mais c'était quelqu'un qui prenait la peine de répondre, même si ça n'intéressait pas. Voilà, parce qu'on lui a écrit, il répond, c'est une question de politesse. Et non seulement il répondait poliment, mais en plus il se prenait la tête pour essayer de faire des réponses intelligentes.
Oui. Et quelquefois en 70 pages.
En plus.
Quelque
part, ce type est admirable.
Je crois qu'il est important de revenir aussi à ce que Gilles a effleuré un peu, c'est de dire que le réseau, en tant que technique littéraire aussi par rapport au personnage de Lovecraft, dans les nouvelles et dans le roman de Lovecraft, c'est la perception du réseau qui amène la connaissance quand même. Par exemple, dans l'appel de Cthulhu, c'est la mise en réseau des informations. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui trouve une mallette dans laquelle il y a des documents, ensuite il trouve une autre information dans un journal, ensuite quelqu'un d'autre auparavant avait une autre information encore dans un premier journal d'un inspecteur, etc. Et cette mise en réseau de connaissances amène, justement, ouvre la porte à quelque chose qui fait très peur, justement. Et c'est un peu l'idée du réseau conspirationnel ou quelque chose comme ça. Quoi.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est la grande force de ça, c'est l'authenticité documentaire, effectivement, parce qu'on a l'impression d'avoir de vraies coupures de presse d'un côté, on a l'impression d'avoir le récit, par exemple, d'un capitaine qui a rencontré donc, cette espèce d'entité monstrueuse qui a une forme, qui a des tentacules et qui en même temps a des ailes, etc. Bon, et c'est une sorte de reprise, et dommage peut-être aussi à Bram Stoker, puisque le capitaine de bord qui tient son carnet, c'est bien sûr, ça renvoie au fameux capitaine du vaisseau sur lequel Dracula arrive en Angleterre. Donc il y a aussi cet hommage qui est rendu indirectement. Mais je crois que la grande force de ça, c'est la force documentaire de son œuvre, effectivement. En même temps que donc, effectivement, comme tu dis, ça fait peur. Donc c'est pour ça que je dis, quand on connaît la correspondance, par exemple, on ne lit pas de la même manière certains textes, parce qu'on le lit justement avec, on sent l'ironie, voire l'humour, au-delà de l'épouvante ou de l'horreur. Et donc on se dit que Lovecraft joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire essaye de convaincre son lecteur et de lui faire peur un maximum, ou de lui provoquer aussi ce qu'on pourrait appeler une sensation un peu d'une sorte de sublime, mais un sublime qui serait du côté du monstrueux et du grotesque parfois, et en même temps il cherche aussi à susciter une espèce de distance qu'on trouve dans certains textes, effectivement.
C'est pas tout à fait une parenthèse, mais comme on parlait de réseau, de ce genre de choses et du mythe et de la création et de la documentation, il y a quelques années, j'ai pas encore tous les détails là-dessus, un certain nombre de musiciens se sont associés pour créer un projet qui s'appelle le Miskatonic Acid Test. Le Miskatonic étant le fleuve qui traverse Arkham, ville imaginaire. Sauf que moi, quand j'avais 13 ou 14 ans et que je lisais Lovecraft, j'ai cherché Arkham sur une carte des États-Unis.
Oui,
je pense qu'on a été nombreux.
L'université de Miskatonic.
Voilà. Et donc, ils ont créé ce projet qui s'appelle The Miskatonic Acid Test, qui part du principe... Je ne sais pas si on peut parler d'uchronie, mais que Arkham existe, que la vallée du Miskatonic existe, et que dans les années 60, il y a eu une scène rock'n'roll, puis garage, puis psychédélique. Et donc, en plus, ils ont même produit les artefacts qui correspondent, c'est-à-dire les morceaux de musique. Et je crois qu'en fait, ce truc est sorti sous la forme d'une espèce de film d'horreur de série Z. Et bon, vous tapez Miskatonic avec un Y et un K acid test sur le net, et vous allez tomber sur un truc totalement délirant. Ça ressemble à un vrai site. Je veux dire, ça serait pas Arkham, il y aurait marqué, je sais pas, Dayton, Ohio, par exemple, on pourrait y croire tout à fait, les biographies ont l'air tout à fait réelles et tout, sauf que quand on connaît Lovecraft, on est mort de rire, parce que c'est évidemment bourré de clins d'œil, il y a un groupe de surf instrumental qui s'appelle Les Ghouls, enfin, ce genre de choses, une autre petite parenthèse, c'est que dans les années 1960, il y a eu un label de Chicago, un label de disques qui s'appelait Dunwich Productions, et qui, en fait, ces types-là avaient découvert Lovecraft pendant leurs années de fac, grâce aux conférences de Derleck au tout début des années 60. Et donc, on s'est retrouvés avec ces gens qui remettaient qui prenaient des termes de Lovecraft pour appeler leur maison de production, leur label de disques et tout ça. Et ça aussi, c'est une autre forme de réseau. Oui, oui, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, et il y a eu même ce groupe psychédélique produit par Dunwich qui s'appelait H.P. Lovecraft, parfaitement. C'est quand même le seul auteur de science-fiction qui a donné son nom à un groupe de rock.
Oui, il faut dire aussi un réseau de sex shops, mais ceci est une autre histoire.
C'est vrai? Oui. T'as une adresse?
Partout, dans toutes les grandes villes américaines, il y a un Lovecraft.
Alors la question, c'est est-ce qu'on peut acheter les 3 bits actuels?
Patrick, il faut dire que le réseau Fanny qui reste extrêmement dense hein, et assez décalé, comme tu disais, Roland. Par exemple, moi, quand j'ai monté l'exposition là, à la Maison d'ailleurs, je suis assez rapidement tombé sur la H.P. Lovecraft Historical Society. Et je me suis dit, ah ben c'est génial, il y a des mecs super sérieux comme ça qui étudient Lovecraft, je vais pouvoir leur demander tas de choses. Et en fait, ils s'amusent à recréer les artefacts qui sortent des nouvelles Lovecraft. Et par exemple, on avait exposé à la Maison d'ailleurs des coupures de journaux et des carnets qui sortaient de l'appel de Cthulhu, justement. Incroyable, on avait vraiment l'impression que c'était des choses qui sortaient des années 20 ou 30, et qui étaient des faux manuscrits, toutes sortes de choses délirantes, qu'ils ont utilisées d'ailleurs pour faire un film qui date de 2005, que vous avez peut-être vu, qui est un film en noir et blanc, qui s'appelle justement l'appel de Cthulhu, ça dure une heure comme ça. C'est probablement le meilleur film tiré de Lovecraft, parce que comme à mon avis l'art intéressant de Lovecraft, les films intéressants sur Lovecraft, eh bien, ils évoquent plus qu'ils le montrent.
Ouais, oui. Alors, dans ce genre-là, enfin, on parlait tout à l'heure des œuvres. Enfin, c'est peut-être une petite parenthèse aussi rapide, mais c'est vrai que l'un des meilleurs films Lovecraftiens, à certains égards, en tout cas, le meilleur hommage, c'est peut-être L'Antre de la Folie de Carpenter, parce que là, justement, il y a un rapport avec Stephen King qui est le plus explicite.
Le débat est ouvert,
mais Lovecraft est quand même très présent dans ce texte-là, et Carpenter aime beaucoup Lovecraft. Enfin, c'est un détail.
Il n'y a pas beaucoup d'auteurs comme ça qui restent aussi suivis. Enfin, ça, la question peut-être que moi j'avais, à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'il est toujours suivi comme ça par ses fans, comment se fait que cet univers reste aussi aussi intéressant,
aussi crédible. Aussi crédible.
Moi, j'aurais tendance à penser que c'est une question de projection et aussi une question d'image. C'est-à-dire que l'image répandue de Lovecraft, comme on l'a dit, est quand même assez contradictoire, voire floue sur certains points. Et donc, à partir du moment où un personnage est contradictoire et flou, on peut projeter sur lui.
Absolument.
Et lisez le livre de Houellebecq sur Lovecraft, et ensuite, si vous lisez l'anglais, lisez la biographie de S.T. Joshi sur Lovecraft. Et là, vous pourrez voir la différence qu'il peut y avoir entre la projection, comment un individu peut se projeter lui-même sur Lovecraft et projeter Lovecraft sur lui-même. Là, je parle de Houellebecq. Et objectivement, d'un point de vue analytique, se tromper, parce qu'au niveau biographique, il est complètement à côté de la plaque, mais est-ce que la projection de Houellebecq sur Lovecraft et de Lovecraft sur Houellebecq n'a pas finalement autant de valeur, quelque part, que la réalité? Là, on n'est plus dans des histoires, c'est qu'est-ce que Lovecraft a fait, qu'est-ce que Lovecraft n'a pas fait, c'est qu'est-ce qu'il reste de Lovecraft. Oui. Et là, Houellebecq, finalement, s'inscrit dans une tradition qui commence avec Derleth, et on a cité les autres trucs avec Bergier et tout ça, qui est une tradition pas tout à fait identifiée de détournement de Lovecraft, de réutilisation de Lovecraft. C'est, finalement, il est mort en 37, et puis finalement, il n'a pas eu le temps de tout dire. Alors, on peut le réutiliser un peu chacun à sa sauce. Et c'est vrai que quand on regarde les différentes Lovecrafteries, quand on compare, par exemple, Brian Lumley, la réincarnation de Lovecraft, et les textes derlethiens et post-derlethiens, il est très clair qu'il y a deux interprétations du mythe qui sont totalement différentes.
Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les bons auteurs, justement, se sont détachés de l'influence de Lovecraft. C'est-à-dire, bon, je pense à quelqu'un comme Ramsey Campbell, qui a commencé par écrire des nouvelles Lovecraftiennes, donc dans la veine Lovecraftienne, mais qui en est sorti. Et on pourrait donner d'autres exemples. Stephen King aussi a écrit pas mal de textes, disons, proto-Lovecraftiens, on va dire. Mais les autres, ceux qui sont restés englués, si on peut prendre une métaphore Lovecraftienne dans Lovecraft, ne sont jamais devenus des écrivains à part entière. Donc Donc il y a aussi cette question, c'est pas si facile que ça de faire du Lovecraft. Je veux dire que, donc il a des épigones, mais est-ce qu'il a créé une école littéraire? C'est un autre problème. Ça,
une école, j'irai pas jusque là. L'école a été créée par Derleth. Ça, c'est
oui, voilà,
clair,
l'école a été créée par Derleth.
Mais l'influence de Lovecraft, elle imprègne l'ensemble du champ de la science-fiction, du fantastique et de la littérature horrifique. Ça, c'est très clair. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'aux auteurs modernes, tout récents, je ne pense pas qu'on en trouverait beaucoup qui n'ont pas lu Lovecraft et qui n'ont pas été impressionnés par Lovecraft, fait, que ce soit positivement ou négativement.
Je pense peut-être... Tu voulais dire quelque chose?
Je voulais dire que le réseau fanique, là encore, il a beaucoup joué, puisque, en fait, c'est à sa mort, et peut-être qu'on peut l'évoquer quand même, il y a des gens qui reprennent un flambeau, qui font de Lovecraft ce qui est devenu. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard non plus, ce n'est pas seulement l'œuvre littéraire, non. C'est véritablement... cette mise en réseau qu'il avait établie, qui poursuit son travail, en fait.
Il suffit de voir ce que Bloch a dit ou écrit sur Lovecraft après sa mort. Bloch, c'est quand même un type dont il était quasiment impossible à une certaine époque de lire une interview sans qu'il parle de Lovecraft. Ouais. Ça a été la rencontre déterminante pour lui. C'est ce qui a fait qu'il est devenu. C'est clairement ce qui a fait ce qu'il est devenu écrivain. En tout cas, le fandom et Lovecraft en première. Ouais.
On peut quand même savoir gré à Derleth, même s'il a détourné effectivement l'œuvre ensuite, qu'il en a fait une espèce de vision chrétienne de son panthéon, etc. C'est quand même grâce à lui, entre autres, et à Donald Wandrei qu'on a les textes de Lovecraft. Parce que Lovecraft n'a pas été publié de son vivant, sauf dans les fameux pulp magazines, Weird Tales et autres. Il a vécu, on le sait, de manière tout à fait misérable. Donc c'est uniquement après sa mort qu'il a acquis une certaine réputation et qu'on a commencé à publier ses textes.
Oui, et la création de Arkham House.
Et Arkham House, bien sûr.
Voilà. Bien sûr. Justement, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire du Lovecraft? Mais on pouvait y répondre du vivant même de Lovecraft, justement quand il a été nègre. Ça c'est très intéressant, on pourrait peut-être dire un mot brièvement là-dessus. Francis Lacassin posait la question, est-ce que Lovecraft est un nègre littéraire ou un accoucheur de talent? Entre 1918 et 1937, donc, comme dit Lacassin, il a été redresseur de textes boiteux, dépanneur d'imagination en détresse, vivant de prothèses d'écrivain handicapé par une difficulté d'expression, professeur de rédaction, nègre d'imposteur en quête d'une consécration, et aussi conseiller d'authentiques écrivains dont il a aidé le talent à s'épanouir. Si ça vous intéresse, le recueil je ne sais même pas comment les appeler, des textes Lovecraftiens signés par d'autres, c'est l'horreur dans le musée. Et tout ce chapitre, d'ailleurs, vous le trouvez dans un des trois tomes publiés chez Bouquin. On ne va pas vous donner... Oui.
Ce qui est intéressant dans l'horreur dans le musée, c'est de voir la différence de qualité entre les textes. Voilà. C'est-à-dire que Lovecraft accoucheur de talent, j'y crois moyen.
Ouais, moi aussi.
Par contre, Lovecraft... ce type-là aurait fait un excellent directeur de collection ou rédacteur en chef. Ça, c'est très clair, parce que quand on voit le boulot qu'il a fait sur certains textes, et notamment sur l'horreur dans le musée, parce que si je me rappelle bien, l'horreur dans le musée, le texte non retravaillé est disponible en anglais. Il a été retrouvé, et quand on voit la différence... c'est la différence entre un texte d'amateur et un texte de professionnel. En fait, Lovecraft, qui ne voulait pas être un écrivain professionnel, qui voulait rester une espèce d'artiste détaché des conditions socio-économiques et tout ça, mais finalement, le travail qu'il faisait sur ses textes, c'était du travail d'editing, du travail de professionnel. Et c'est ça qui est admirable, parce qu'en plus, il le faisait des fois, il a été payé, mais des fois, il l'a fait sans être payé. Je veux dire, les trucs... Il a aidé des gens comme Bloch, ou même des gens qui étaient, entre guillemets, son égal, c'est-à-dire comme Clark Ashton Smith. C'est des gens... Après la mort de Lovecraft, ils ont toujours dit qu'il leur avait énormément apporté. Et en fait, je pense que derrière son côté, justement, cette espèce de mythe d'ermite, je crois que Lovecraft aimait les gens, mais qu'il n'avait peut-être pas tellement envie de les rencontrer, mais qu'il les aimait, et qu'il aimait bien rendre service aussi. Puis qu'en fait, ça devait être un type vachement gentil, mine de rien.
Il y a un exemple, il n'y en a pas deux. Un exemple qui s'appelle, c'est un round robin, comme disent les Américains, c'est-à-dire un roman écrit à plusieurs mains. Il en a fait un, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est une nouvelle qui s'appelle le défi d'outre-espace. C'est pas très bon, mais on comprend tout à fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous relisez cette nouvelle, qui là encore vous trouvez dans le recueil de Robert Laffont, c'est une nouvelle de science-fiction d'épouvante qui a été écrite avec Catherine Moore, Abraham Merritt, Robert Howard et Frank Belknap Long. Et il faut bien avouer que malgré l'admiration que je porte à Merritt, son texte est lamentable. Et les deux premiers, alors, il se relaie pratiquement de paragraphe en paragraphe, et on voit bien tout de suite la différence. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on peut faire vraiment du Lovecraft ? Non, pas deux en paragraphe, mais enfin, on sait, oui, c'est ça. Moore commence, suivi de Merritt, et évident.
Et quand Robert Howard arrive, il règle une situation super compliquée qui a été
d'une manière violente,
carrément, deux coups d'épée,
ah oui, c'est
quoi.
Ça, oui, c'est hyper violente. Et on voit aussi tout de suite l'invraisemblable différence de style entre Lovecraft et les autres, faut bien le dire. Hein, les meilleurs textes sont ceux, les meilleurs passages sont ceux de Lovecraft et de Howard. Donc, est-ce qu'on peut faire vraiment du Lovecraft ? Bah, je crois qu'il n'y a que Lovecraft qui peut faire du Lovecraft. Les autres s'inspirent, comme l'a très bien montré Patrick dans son exposition, s'inspirent d'une sorte. C'est un tremplin, en fin de compte, pour aller ailleurs, d'une certaine façon.
Oui, mais je veux dire, c'est valable pour n'importe quel auteur. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire du Norman Spinrad, par exemple ? Est-ce qu'on peut faire du Isaac Asimov ? Non. C'est des gens qui ont une personnalité. Bon, cela dit, après, on peut se poser les questions, justement, sur les, entre guillemets, les spin-offs qu'il y a eu. Ouais. Quand on regarde ce qui a été écrit par d'autres auteurs à partir de Lovecraft, ce qui a été écrit par d'autres auteurs à partir d'Asimov, dans des contextes socio-économiques totalement différents, hein, bien sûr, et on se rend compte quand même que, bon, même si chacun a son interprétation personnelle de l'œuvre de l'auteur, il y a quand même beaucoup plus d'interprétations potentielles chez Lovecraft. C'est-à-dire que Lovecraft est un auteur tellement riche qu'il suffit d'occulter un de ses aspects, disons le matérialisme, pour avoir toute une série de choses à faire. Et il suffit d'occulter un autre aspect, par exemple son amour pour le XVIIIe siècle, pour avoir toute une série de choses à faire. L'erreur, c'est d'essayer de faire du Lovecraft. Mais de toute façon, c'est toujours une erreur d'essayer de faire du quelqu'un. Par contre, faire comme Bloch l'a fait, parce que Bloch est quand même l'un des auteurs les plus Lovecraftiens, non dans les textes eux-mêmes, mais dans l'influence. C'est, en fait, Bloch est peut-être le premier auteur post-Lovecraftien, alors que Derleth se contente d'être un auteur para-Lovecraftien.
Oui. On peut dire la même chose du cinéma, peut-être. Avec Ridley Scott, Alien est peut-être le premier film post-Lovecraftien.
Non, Alien est le premier film von Vogtien de l'histoire du cinéma. Mais...
Le débat est tout.
Par contre, si vous n'avez pas vu, c'est quoi ? C'est Herbert West, réanimateur de cadavre. C'est pas du tout un film Lovecraftien. Hein.
Non,
c'est un bon film d'horreur très rigolo. C'est un mauvais film d'horreur très rigolo, ouais, mais c'est pas Lovecraftien.
C'est le grand guignol.
Oui, c'est ça.
C'est Patrick. Je crois que c'est intéressant de voir que la pérennité de Lovecraft, des thèmes de Lovecraft, elle est biaisée, en fait, puisque c'est là où il est le plus mauvais, peut-être, dans les monstres, dans le non pas l'étrange mais l'horreur, en fait, qu'il a été repris par King ou par Ramsey Campbell. Et dans toutes ces nouvelles oniriques qui sont très belles, par exemple, il y a très peu de gens qui sont inspirés de ça, en fait. Il y a très peu de gens qui sont inspirés aussi de la subtilité, en fait, de l'étrange Lovecraft. Moi, je pense à une personne qui s'appelle Thomas Ligotti, qui est presque inconnu, en fait, ici, qui a pas été traduit, sauf erreur, en français, ou très peu, qui eux sont des descendants de Lovecraft, de cette veine, justement, de la weird fiction qui existe très peu, en fait, ici, de ce décalage assez subtil. Et tu parlais d'Alien comme étant un film Lovecraftien, sans doute, puisque Hans Rüdiger, qui a vraiment été l'un des piliers, en fait, de ce film, a été choisi suite à son Necronomicon, en fait, quand il a illustré le Necronomicon. C'est ce livre-là qui a servi de base, en fait, à Alien.
Encore un réseau. Oui. Gilles ?
Non, je voulais dire, rebondir sur ce que disait Roland. Enfin, il me semble qu'effectivement, Lovecraft, c'est pas quelqu'un qu'on peut imiter servilement, c'est-à-dire sous forme de pastiche, sauf effectivement à faire un pastiche, donc là, avec une certaine distance ironique. Donc c'est facile, a priori, d'imiter le style parce qu'il y a des tics stylistiques, on va dire. Mais en même temps, ça n'est qu'une surface. Et effectivement, ce qui est plus intéressant, c'est de se servir de Lovecraft comme un potentiel d'imaginaire, en quelque sorte. Et effectivement, de l'utiliser en fonction de sa propre personnalité, ce qu'on fait certains grands créateurs comme Ligotti, effectivement.
Mais
donc je suis pas d'accord non plus. Enfin, l'idée que je ne pense pas que Lovecraft ait effectivement suscité des, enfin, a été accoucheur de talent, comme tu disais. On peut pas dire ça.
Si je prends la liste, malheureusement, c'est pas la peine que je la lise. Aucun des écrivains n'est passé à la postérité. Par contre, les écrivains dont on parlait, ceux qui se sont, comment dire, engouffrés dans la brèche post-Lovecraftiennes ont eu leur heure de gloire, mais à part Bloch, tout de même, l'immortel auteur de Psychose, bon, les autres, franchement, personne ne les lit plus. Hein, Derleth, même Wandray, c'est dommage, parce que c'était très intéressant.
Non, mais même si on prend Clark Ashton Smith, il n'y a aucun bouquin disponible en France actuellement. Clark Ashton Smith, c'est quand même l'un des principaux auteurs anglo-saxons de fantasy pré-tolkienienne. Et ben moi, j'aime pas Tolkien. Hein. Je le dis, s'il y a des fans de Tolkien ici qui sortent tout de suite parce qu'ils risquent d'être choqués. Pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est hyper chiant et ça a figé la fantasy dans quelque chose qui m'intéresse pas. Et quand je lis de la fantasy d'avant Tolkien, quand je lis du Clark Ashton Smith, même du Conan, malgré tout le mal qu'on a pu dire, mais les Conan originaux,
je suis tout à fait d'accord.
Quand je lis des trucs de Wattels des années 30, je me dis putain, c'était bien la fantasy à l'époque, pourquoi ce con de Tolkien il est venu nous inventer ces histoires de mecs aux pieds poilus, tu vois.
Roland, tu nous fournis une transition qui va nous amener à clore ce débat. Je propose qu'on...
Des questions ?
Oui, il y aura peut-être des questions, mais je crois que c'est très intéressant de parler de gens comme Clark Ashton Smith. C'est un scandale absolu qu'au pratiquement aucune œuvre en français ne soit disponible aujourd'hui, et je ne suis même pas certain qu'aux États-Unis, tous ces bouquins soient disponibles en poche à l'heure actuelle.
Quand tu vois que la plupart des auteurs, même connus de la Middle-East, comme Spinrad, mais pas seulement Spinrad, ou Silverberg, sont totalement absents des rayonnages, parce qu'en dessous d'un certain nombre de ventes par an, l'éditeur considère que ça ne vaut pas le coup à cause des histoires de distribution, uniquement pour des questions économiques, Black Ashton Smith, il n'a aucun sens. Par contre, à mon avis, aux États-Unis, c'est le genre d'auteur, dans le monde anglo-saxon, c'est le genre d'auteur sur lequel la small press doit travailler et doit certainement publier des bouquins à 500, 1000, 2000 exemplaires, des jolis bouquins et tout ça. Mais en France, la small press étant inexistante, on n'a même pas la chance. La dernière publication de Clark Ashton Smith,
c'est chez Néo dans les années 80.
Et il y avait eu ce recueil au masque aussi qui était absolument remarquable sur ce monde. Sur Zotique, voilà, merci.
Zotique, oui, mais c'était incomplet ce qu'ils avaient fait au masque. Mais on pourrait dire la même chose de Howard, parce que c'est étonnant tout de même ce que ce type a pu produire en si peu de temps. Hein, il est mort très très jeune, il s'est suicidé quand il a appris que sa mère était mourante. Et ça a été d'ailleurs un deuil terrible pour Lovecraft quand il a appris la mort de son ami qu'il appelait Two Gun Bob. Hein, c'était vraiment une sorte de frère, et Smith également. Et lui, d'ailleurs, des trois, est le seul véritable reclus. Hein. C'est assez drôle. Mais moi, il ne faut pas me lancer sur Smith, que je tiens pour un des plus grands écrivains américains. Mais c'est intéressant de voir tout de même que ce qu'on appelle les trois mousquetaires, ça ne va pas d'ailleurs, il faudrait qu'ils soient quatre, mais il y a tout de même trois noms.
Il y a Robert Bloch qui arrive en D'Artagnan. Ouais,
D'accord. Alors, ajoute. Donc, je note bloc ou je bloc note, je ne sais pas ce qu'on... ça serait intéressant de dire un mot tout de même sur cette postérité de ces trois auteurs, parce que beaucoup de gens aussi ont essayé de copier Clark Ashton Smith et n'ont jamais vraiment réussi. La vogue actuelle de fantasy, comme on dit aujourd'hui, est tout de même très différente de la fantasy écrite par Smith. Bon, on ne va pas lancer un débat là-dessus, on n'a pas le temps, mais la grande différence entre la fantasy actuelle, celle qui marche dans les pays anglo-saxons et même en France, c'est que la fantasy de Smith est ouvertement décadente et emprunte beaucoup, disons, à ce qu'on appelle la littérature de fin de siècle. Il ne faut pas oublier que Smith a traduit Baudelaire, beaucoup de grands poètes comme ça. Donc, il y a un côté poétique, c'est un poète admirable aussi. Il faudrait parler aussi des poésies des trois. Les trois étaient poètes et ont écrit des recueils de poésie.
Mais je pense que
ça en dit long.
Je pense que il y a une clé par rapport à justement ce que tu dis sur cette fantaisie, c'est que j'ai l'impression que l'une des principales influences de ces auteurs, et pas seulement de Lovecraft, c'est Lord Dunsany justement, et que
là encore,
la fantaisie issue de Lord Dunsany, là je parle c'est pas du tout rationnel ce que je veux dire, c'est purement émotionnel. Je sais pas pourquoi cette fantaisie elle me touche, et la fantaisie issue de Tolkien elle me touche pas. Mais ça doit être parce qu'ils n'ont pas les pieds poilus chez Lord Dunsany.
Là aussi, trouver du Lord Dunsany en français, ce n'est pas facile. Je crois qu'il y a un seul bouquin qui a été publié. Le Livre des Merveilles, je ne sais pas si c'était traduit.
Il y a eu un truc qui a été traduit chez...
Mais en tout cas, nous vous conseillons la lecture de Dunsany. Peut-être un mot, Gilles, et puis peut-être on passera le micro pour une ou deux questions.
Non, je voulais juste dire, pour aller dans le sens que tu viens de dire, bon, Lord Dunsany, bien sûr, mais je veux dire, bon, autant on peut parler des trois mousquetaires, des quatre, peu importe, avec H.M. Smith et Howard, mais on peut dire aussi qu'il y a une filiation entre des auteurs comme Dunsany d'une part, mais il y a deux autres noms aussi qui me paraissent des grands de la littérature et que d'ailleurs Lovecraft, dont Lovecraft parle dans ses essais, c'est Algernon Blackwood et William Hope Hobson. Donc si vous ne connaissez pas ces auteurs, ce sont des auteurs extraordinaires, et effectivement là la filiation, littéraire, la communauté de l'imaginaire créateur est absolument flagrante quand on lit ces auteurs. Par exemple, La Maison du bord du monde, William Hope Hodgson.
Ah oui, chef-d'œuvre absolu. La Maison.
Donc il y a aussi cet aspect-là. Et j'aurais juste dire un mot, parce qu'on n'en a pas parlé, hommage en même temps à Joseph Alterac, par exemple. Il y a aussi, on pourrait dire, un autre réseau autour de la critique lovecraftienne, et notamment des fanzines ou des revues plus ou moins amateurs, donc qui se sont consacrés exclusivement à l'étude de Lovecraft et de ces autres auteurs. Bon, on peut citer évidemment Études lovecraftiennes, mais aussi Lovecraft Studies aux États-Unis, Crypt of Cthulhu, etc. Donc il y a aussi cet aspect réseau-là au niveau de, on va dire, méta-littéraire. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait très très brièvement une question où je vais clore le débat? Alors très très vite.
Oui, je voulais savoir comment vous expliquez le fait que Lovecraft est souvent considéré comme un écrivain médiocre au niveau du style.
Tu veux dire en France ou d'une manière générale? Parce qu'aux États-Unis, il n'est pas considéré comme médiocre. Et j'avoue que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu dire qu'il était médiocre. Vieillot, peut-être. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, moi, j'ai lu du Lovecraft aussi bien en français qu'en anglais.
Bon, je crois que c'est...
C'est quand même un mec qui avait un souci d'écrire certaine tradition du XVIIIe siècle et qui est une tradition de belle écriture avec un grand B et un E, qui est très française, quelque part. Enfin, que nous, en tant que Français, on peut comprendre la belle écriture, le beau style. Lovecraft, il était quand même là-dedans. Il n'était pas dans cette espèce de logique, j'allais dire américaine, mais... Non, enfin, il n'était pas dans le minimalisme, il n'était pas dans l'économie, il était dans le style avec un grand S. C'est vrai.
Non, je vais essayer de répondre parce que je crois que c'est juste. Enfin, je veux dire, il y a eu effectivement un certain nombre de détracteurs de Lovecraft, y compris parmi des grands critiques littéraires, des écrivains, qui considéraient que Lovecraft était un écrivain médiocre. Bon, ce qui est arrivé, c'est d'une part, c'est pour ceux qui l'ont découvert en français, par exemple, les traductions étaient tronquées, étaient inexactes, etc. Donc ça a peut-être contribué à ça. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a, il y a une écriture un peu chargée, on va dire, lourdement métaphorique, très adjectivale, qui ne plaît pas à tout le monde. Donc il y a eu cette controverse. Je pense maintenant, on est passé au-delà de cette controverse, comme on a dit à un certain moment donné que Poe était un écrivain obscur, qu'il écrivait mal, etc. Ça a été dit à propos de Poe aussi, comme ça a été dit à propos de Lovecraft. Et il a fallu quand même un assez long purgatoire pour Poe, pour être reconnu en tant qu'un auteur, et en partie grâce aux traductions en France de Baudelaire, bien sûr. Pour Lovecraft, c'est pareil. Il y a un très long purgatoire jusqu'à sa reconnaissance tardive, effectivement, en France et aux États-Unis. Donc là aussi, il y aurait un itinéraire à comparer entre Poe et Lovecraft, par exemple, mais c'est juste.
Fin du purgatoire pour tout le monde. Merci beaucoup.
Pourtant, ça fait plaisir d'en voir un. Il y en a eu 60. Hein.
À part ça, J'ai lu et c'est parti.